Les témoignages se succèdent sur notre antenne depuis plusieurs jours. L'hôpital assimilé à un mouroir. On l'a entendu également sur notre antenne. Des propos tenus, on le disait, par le personnel soignant lui-même. Valérie Denux, on a l'impression que la situation se dégrade de jour en jour depuis l'incendie, depuis le processus en fait de délocalisation. Aujourd'hui, la question est simple. Comment sortir de l'impasse? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je tiens à dire que j'étais quelques jours de congé. Je suis revenue et j'ai travaillé avant de revenir, bien sûr, avec le ministère pour pouvoir apporter toutes les réponses nécessaires. Pour moi, évidemment, j'ai suivi la situation avec une grande attention. Et je dois dire quand même deux choses. La première, c'est que j'ai été profondément choquée par l'attitude des syndicats avec des propos verbaux très violents, des menaces envers les médecins. Certains médecins ont porté plainte, d'ailleurs. Des émissions datant d'il y a un an passées donc sur les antennes comme étant des émissions actuelles, des allégations disant que le taux de mortalité plus important en Guadeloupe depuis donc l'incendie.
Mais nous nous sommes rendus sur le terrain, c'est ça qu'ils disent.
Donc, j'entends, c'est ce qu'ils disent, mais il est important de comprendre que entre ce que les gens disent et la réalité, il faut faire la différence. Vous avez
la réalité
actuellement la Santé publique France qui a une méthodologie très rigoureuse, qui prend en compte tous les certificats de décès de toutes les mairies de la Guadeloupe. Et aussi, il faut le dire, même les gens qui meurent en dehors de la Guadeloupe, à partir du moment où ils sont résidents de la Guadeloupe, sont comptabilisés donc dans la mortalité. La mortalité, je leur ai demandé de recontrôler pour être sûr, la mortalité aujourd'hui n'est pas supérieure à ce qu'elle était en 2017 et en 2018, pardon, 2018, 2017 et 2016. Donc c'est important de le dire. On meurt dans un CHU, comme dans tout CHU, parce qu'il y a des malades qui sont les plus graves, mais il n'y a pas de surmortalité par rapport aux autres années. Pourquoi ? Parce que les soignants sont des gens extraordinaires. Et moi, je le dis. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que j'ai été marquée aussi par la détresse des soignants. Et ça, je l'entends parfaitement. Autant la violence et les fausses nouvelles, je trouve ça dramatique pour la Guadeloupe, pour notre population, autant le fait de la souffrance des soignants qui donnent tous les jours. Et c'est bien parce qu'effectivement, les conditions ne sont aujourd'hui pas optimales, mais que les soins sont toujours prodigués de manière sécurisée par ces gens-là.
Justement,
qui font absolument tous les efforts nécessaires.
Valérie Denux, ce dont on parle, c'est justement de cette santé. Aujourd'hui, au CHU de Pointe-à-Pitre, on a l'impression que cette santé est banalisée à tel point que seules les urgences dites vitales sont privilégiées, faute encore de moyens, faute de présence humaine. Valérie Denux, dans quel monde on serait capable de penser que l'on peut catégoriser le degré d'une urgence vitale?
Alors, écoutez, tout ceci est faux. Je le dis clairement, il n'y a jamais eu autant de greffes rénales en Guadeloupe que l'année dernière. Donc ça s'appelle pas forcément de l'urgence vitale, ça s'appelle de la programmation, ça s'appelle de l'évaluation de la personne, ça s'appelle vraiment de la préparation des personnes. Donc il y a
un travail des urgences.
Oui,
il se dit
j'y viens, mais il y a aujourd'hui tout un travail extraordinaire qui est fait au niveau du CHU. Maintenant, les urgences sont dans des mauvaises conditions structurelles parce qu'il y a eu l'incendie, parce qu'il y a eu cet incendie qui s'est passé malheureusement au-dessus des urgences normales. Et donc, il a fallu trouver des locaux qui sont temporaires. Bien sûr que ce n'est pas idéal et ça, je suis absolument d'accord. Les urgences, par ailleurs, sont un vrai problème en France, globalement. Nous manquons d'urgentistes partout en France. Il y a eu des grèves partout en France sur ce sujet. Et la ministre a annoncé des mesures fortes de valorisation des personnes qui travaillent au niveau des urgences. Et puis, je pense que le sujet suivant que vous voudrez évoquer, et c'est normal, c'est le sujet, en fait, des ruptures d'approvisionnement.
Absolument, parce que de moyens.
Voilà, parce que ça, c'est un point qui est évidemment dimensionnant pour les soignants, qui est très important, auquel je suis très attentive. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que la dette fournisseur du CHU, donc ce manque de moyens dû à des problèmes de finances, ne date pas de l'incendie. Bien sûr que l'incendie est venu potentialiser tout ça, mais ça ne date pas de l'incendie. Meilleur exemple, en 2016, il y avait eu exactement le même type de problème. Il y avait eu un grand financement de cette partie de la dette avec un plan d'action qui n'a pas été suivi. Et aujourd'hui, 2 ans et demi après, on en est là à nouveau.
Donc, mais on en est là à nouveau à devoir éviter cette faillite du CHU, puisque justement la commission médicale du CHU appelle à un apurement de la dette du CHU. Là aussi, il s'agit de moyens financiers. Est-ce possible cet apurement de la dette, de régulariser cette situation de l'hôpital?
Oui, il le faut. En tout cas, pour moi, et clairement, on en a parlé au ministère, le fait de ces ruptures d'approvisionnement doivent cesser. On est tous d'accord là-dessus. Donc, on va d'une part faire le listing exact de tous les besoins. Et vous le savez, les élus ont vu le président de la République qui a donné une ligne de trésorerie d'urgence qui est mise en place donc, au niveau de la Caisse des dépôts et consignations et que moi, je m'assure bien sûr du suivi vis-à-vis du CHU. Nous allons l'utiliser rapidement puisqu'il faut qu'il me donne les besoins très rapidement et très rapidement, nous allons passer les commandes. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est sur l'immédiateté de la réponse. Sur l'apurement de la dette, il faut comprendre, je donne un exemple. Si chez votre épicier, vous avez une dette, un jour, il finit par vous dire « maintenant, je ne veux plus vous donner parce que vous ne me payez jamais ». Je comprends ça. Mais vous lui dites « ok, je vais vous payer ». Et puis, le problème, c'est que vous-même, vous n'avez pas des revenus suffisants, donc vous recommencez. Et vous recommencez éternellement jusqu'au moment où, à nouveau, il vous dit « je ne te donne plus à manger, il faut que tu reviennes me payer bon. ». Le CHU, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que le CHU, il a des charges très importantes par rapport à ce qu'il produit. Donc, l'État donne énormément d'aide. Cette année, la ministre l'a dit hier ou avant-hier soir, c'est 48 millions d'euros, alors qu'il était prévu seulement 36 au départ dans la planification. Mais avec M. Cotelon, nous sommes allés à Paris, nous avons demandé d'avoir une aide en trésorerie à hauteur de la dette fournisseur, donc 48 millions d'euros. Ceci étant, il ne faut pas prendre les 48 millions d'euros et payer les fournisseurs comme ça, parce qu'en réalité, on a calculé qu'à la fin de l'année, on serait à nouveau à une trentaine de millions d'euros de déficit. Parce que la charge et la production ne permettent pas de payer tout ce qu'il faut payer. D'accord ? Donc ce qu'il faut faire impérativement, c'est retrouver une mécanique normale avec les fournisseurs, c'est-à-dire les payer régulièrement avec des sommes normales, acceptables pour eux, et avoir un flux continu. À partir du moment où ils savent que... C'est parce qu'ils n'ont plus confiance.
Pardonnez-moi, mais justement, entre-temps, il y a des médecins qui partent, qui quittent le CHU. Comment on fait pour soigner?
Alors oui, absolument, mais ça procède de ça. C'est-à-dire que s'il y a des ruptures d'approvisionnement, les médecins ne peuvent plus travailler, donc ils ne veulent plus rester. Donc c'est bien l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de rupture d'approvisionnement.
On a l'impression que l'hôpital n'est plus du tout crédible en ce moment.
L'hôpital n'est plus crédible vis-à-vis de ses fournisseurs parce qu'effectivement, ils ne payent pas régulièrement, ça c'est sûr. Pour vous donner un exemple, il y a eu, il y a à peu près 3 semaines de ça, un courrier de M. Cotelon qui m'a été adressé concernant des ruptures d'approvisionnement de médicaments. Eh bien, nous avons, dès qu'il m'a donné ça, c'était le vendredi, nous avons, un, fait une réunion ensemble pour trouver des solutions, et deux, je me suis portée garante directement auprès des fournisseurs parce que les fournisseurs me disaient... Si c'est le CHU, on n'a pas forcément confiance. Donc, si c'est vous, on a confiance. Donc, il faut absolument arrêter ça. Il faut qu'on rétablisse la confiance de paiement régulier du CHU vis-à-vis de ses fournisseurs.
C'est très peu commun et même frustrant d'arriver devant un hôpital et de trouver des grilles bloquées. Alors, on disait, le personnel est toujours en grève. Vous irez à leur rencontre?
Alors, je vais aller cet après-midi. Cet après-midi, nous allons rencontrer, bien sûr, les syndicats. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que hier... Monsieur Cotelon m'a dit qu'il y avait 4 personnels qui étaient déclarés grévistes. 4. D'accord ? Tous les autres qui étaient présents, ce sont soit des gens en repos, soit des gens qui ne sont pas de l'hôpital. Il faut quand même le dire, il faut quand même être clair là-dessus.
Ils sont nombreux. Les images le prouvent.
Ils sont une centaine, mais enfin sur 3700 agents, je ne sais pas la proportion que vous faites, mais moi je trouve que ce n'est pas forcément énorme. Ceci étant, il y a des contestations que l'on prend en compte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut prendre en compte cette contestation. Mais il est important de dire que l'hôpital fonctionne normalement aujourd'hui. Les services fonctionnent. Les agents sont présents.
Les médecins sont présents en dépit des menaces qu'ils ont eues, en dépit des difficultés qu'ils ont.
Le pôle parent-enfant se trouve aussi dans des difficultés conséquentes. Quelle est l'issue?
Oui, alors sur le pôle parent-enfant, malheureusement, la maternité a été particulièrement touchée par l'incendie. Nous avons aussi cette maternité qui avait déjà eu des avis négatifs de la commission de sécurité donc dès 2015, en demandant à ce qu'il y ait des gros travaux structurels pour rentrer dans la nouvelle réglementation, notamment de désenfumage, par exemple. Et donc, lorsque nous avons travaillé l'année dernière avec les experts et avec les différents personnels, nous avons malheureusement dit qu'il n'était pas possible de retourner dans la maternité, d'une part parce que ça demandait des travaux très importants, mais ça, à la limite, on pouvait le faire, sauf qu'il fallait que ça prenne au moins 2 à 3 ans, donc beaucoup plus longtemps que de construire un pôle par enfant à l'extérieur. Et par ailleurs, puisque aujourd'hui nous voyons bien que nous avons des difficultés avec le nettoyage de la zone technique, puisqu'il a fallu attendre la levée des scellés de la justice, qui a été beaucoup plus long que prévu. Et donc, ça voudrait dire aujourd'hui qu'on n'aurait pas encore les blocs et on ne serait pas de toute façon en mesure d'être à la maternité. Et enfin, dernier point qui est demandé par les organisations syndicales, et ce en quoi ils ont raison, c'est de s'assurer de la solidité de la structure béton. Et on ne pourra le faire que quand la zone technique sera complètement décontaminée et nettoyée.
Valérie Denux, aujourd'hui, les femmes et les hommes guadeloupéens ne demandent plus à être rassurés. Ils ont tout simplement peur de se rendre à l'hôpital, peur aussi de voir leurs proches mourir. Vous leur répondez quoi aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous répondre immédiatement, mais ce que je voulais juste finir sur le pôle parent-enfant, c'est que je voudrais quand même saluer très fortement, un, les personnels du CHU qui sont aujourd'hui à la polyclinique, et deux, les personnels de la polyclinique et les deux directions. C'est pas facile de cohabiter, c'est difficile. Ils sont effectivement dans un endroit exigu, mais un endroit qui garantit le circuit patient, c'est-à-dire les salles d'accouchement, les salles de césarienne à côté, et puis la réanimation néonatale. Donc ça, c'est un premier point. Pour moi, c'est le circuit patient qui est vraiment important. Et il va falloir qu'on les aide clairement dans les conditions de vie. Après, sur les Guadeloupéens qui ont peur de se faire soigner, oui, j'ai bien retenu votre question. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se faire soigner en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que d'abord, les médecins ou les soignants qui font le travail, ils font un travail qui est extraordinaire. Et ils sont conscients de leurs limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils savent qu'ils n'ont pas le matériel ou qu'ils n'ont pas les compétences parce que le médecin en question n'est plus présent sur le territoire, eh bien, ils vont préconiser une évacuation sanitaire vers d'autres territoires comme la Martinique ou vers la métropole. Et ça, pour moi, c'est la garantie de la sécurité, c'est d'être conscient de ses limites.
Le nouveau CHU, on est dans les délais, est-ce que tout sera prêt finalement, puisque tout le monde attend effectivement aussi cette échéance d'avoir un hôpital flambant neuf pour accueillir l'ensemble de la population?
Alors oui, ça c'est un espoir extraordinaire, parce que nous allons avoir quand même un CHU qui sera un des hôpitaux les plus modernes de France lorsqu'il sera sorti de terre. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'on arrive absolument à corriger tous les dysfonctionnements, toutes les difficultés actuelles. On a 2-3 ans avec M. Gérard Cotelon pour y arriver, et on est main dans la main tous les deux, on a bien l'intention de le faire. Donc le nouveau CHU est dans les temps. Aujourd'hui, ça se passe bien. Nous avons des chantiers qui avancent bien, avec des entreprises sérieuses, un chantier qui est bien tenu, qui avance bien. Et puis, nous faisons un comité de pilotage tous les mois avec Monsieur le Préfet. Nous le coprésidons tous les deux, donc moi-même et lui, de façon à ce qu'on nous présente chaque mois les avancées, les points éventuellement de difficultés qu'il pourrait y avoir.
Merci infiniment Valérie Denux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc la directrice.